J'ai retenu ce matin trois textes. Tout d'abord, au livre de Jérémie, au chapitre 1, les versets 1 à 5. Puis je lirai au premier livre des Rois, au chapitre 2, les versets 12 à 27. Et enfin, dans le premier livre de Samuel, au chapitre 2, les versets 12 à 17 et 22 à 25. Je commence donc par le livre du prophète Jérémie, au chapitre 1, les versets 1 à 5. Parole de Jérémie, fils de Hilkiyahou, l'un des sacrificateurs d'Anatote dans le pays de Benjamin. La parole de l'Éternel lui fut adressée au temps de Josias, fils d'Amon, roi de Juda, la 13e année de son règne. Il en fut ainsi au temps de Jéhoiakim, fils de Josias, roi de Juda, jusqu'à la fin de la 11e année de Sédécias, fils de Josias, roi de Juda, jusqu'à la déportation de Jérusalem au 5e mois. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots : avant que je ne te forme dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu ne sortes de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète pour les nations. Au premier livre des Rois, au chapitre 2, les versets 12 à 27. Salomon siégea sur le trône de son père David et son règne fut tout à fait affermi. Adonia, fils de Haggith, vint vers Bathsheba, mère de Salomon. Elle lui dit « Viens-tu pour la paix ?» Il répondit « Pour la paix. » Et il ajouta « J'ai un mot à te dire. » Elle dit « Parle. » Il dit « Tu sais que la royauté m'appartenait et que tout Israël portait ses regards sur moi pour me faire régner. Mais la royauté a tourné pour appartenir à mon frère, car elle est à lui de par l'Éternel. Maintenant, je te fais une seule demande, ne me repousse pas. » Elle lui répondit « Parle. » Il dit « « Dis, je te prie au roi Salomon, car il ne te repoussera pas, qu'il me donne pour femme Abishag, la Sunamite. » Bathsheba dit « Bien, je parlerai moi-même au roi à ton sujet. » Bathsheba se rendit auprès du roi Salomon pour lui parler au sujet d'Adonia. Le roi se leva pour aller à sa rencontre. Il se prosterna devant elle et s'assit sur son trône. Il plaça un trône pour la mère du roi et elle s'assit à sa droite. Puis elle dit « J'ai une seule petite demande à te faire, ne me repousse pas. » Et le roi lui dit, « Demande, ma mère, car je ne te repousserai pas. » Elle dit, « Qu'Abishag, la Sunamite, soit donnée pour femme à Adonia, ton frère. » Le roi Salomon répondit à sa mère, « Pourquoi demandes-tu Abishag, la Sunamite, pour Adonia ? Demande donc la royauté pour lui, car il est mon frère aîné, pour lui, pour le sacrificateur Abiathar et pour Joab, fils de Tseruya. » Alors le roi Salomon fit un serment par l'Éternel en disant « Que Dieu me fasse ceci et qu'il ajoute encore cela, si ce n'est pas au prix de sa vie qu'Adonia a prononcé cette parole. Maintenant l'Éternel est vivant, lui qui m'a affermi et m'a fait asseoir sur le trône de mon père David et qui m'a donné une maison comme il l'avait dit. Aujourd'hui, Adonia sera mise à mort. » Et le roi Salomon envoya Benaïaou, fils de Jéhoiada, qui le frappa, et Adonia mourut. Le roi dit ensuite au sacrificateur Abiathar, « Va-t'en à Anatote dans tes terres, car tu mérites la mort, mais je ne te ferai pas mourir aujourd'hui, parce que tu as porté l'arche du Seigneur l'Éternel devant mon père David, et parce que tu as eu part à tous les tourments de mon père. » Ainsi, Salomon chassa Abiathar du sacerdoce de l'Éternel afin d'accomplir la parole que l'Éternel avait prononcée sur la maison d'Élie à Silo. Et enfin, au premier livre de Samuel, chapitre 2, les versets 12 à 17 et 22 à 25. Les fils d'Élie étaient des Vauriens. Ils ne connaissaient pas l'Éternel. Voici la manière d'agir de ces sacrificateurs à l'égard du peuple. Chaque fois qu'on offrait un sacrifice, le serviteur du sacrificateur arrivait au moment où l'on faisait cuire la viande. Une fourchette à trois dents à la main, il piquait dans la cuve, dans le chaudron, dans la marmite ou dans le pot. Et tout ce que la fourchette ramenait, le sacrificateur le prenait. C'est ainsi qu'ils agissaient à l'égard de tous ceux d'Israël qui venaient là, à Silo. Même avant qu'on fasse brûler la graisse, le serviteur du sacrificateur arrivait et disait à celui qui offrait le sacrifice « Donne de la viande à rôtir pour le sacrificateur. Il n'acceptera pas de toi de la viande cuite, mais de la viande crue. » Et si l'homme lui disait « On fera d'abord brûler la graisse, tu prendras ensuite ce qui te plaira », le serviteur répondait « Non, 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 tu donneras maintenant, sinon je prends de force. » Le péché de ces jeunes gens était très grand devant l'Éternel, car on traitait avec mépris l'offrande faite à l'Éternel. Élie était fort âgé et il apprit comment ses fils agissaient à l'égard de tout Israël. Il apprit aussi qu'il couchait avec les femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente de la rencontre. Il leur dit « Pourquoi faites-vous de telles choses ? Car j'apprends de tout le peuple vos mauvaises actions. Non, mes fils, ce que j'entends dire n'est pas bon. Vous poussez le peuple de l'Éternel à la transgression. Si un homme pêche contre un autre homme, Dieu le jugera. Mais si un homme pêche contre l'Éternel, qui intercédera pour lui ? Mais ils n'écoutèrent pas la voix de leur père, car l'Éternel voulait les faire mourir. » Seigneur, ta parole est une lampe à mes pieds, elle est une lumière sur ma route. Et nous allons chanter le cantique 387, « Seigneur, tu donnes ta grâce », le cantique 387, les strophes 1, 2 et 3, dans Louange et prière. Je vous invite à vous lever. Comme l'enfant reçoit le pain, comme l'oiseau reçoit l'espace avec le grain, comme l'ami reçoit l'ami, comme la nuit reçoit l'aurore et le soleil, comme le sol reçoit la semence, comme la sève monte aux branches et porte fruit, donne-nous, Seigneur, d'accueillir ta parole. Le diable se cache dans les détails. L'expression est proverbiale. J'y pensais, justement, en relisant l'ouverture du livre de Jérémie qui indique que le prophète était le fils d'Ilkiyahou, l'un des prêtres résidant à Anathoth. L'un des prêtres d'Anathoth. Eh bien, c'est sur ce détail que j'aimerais m'attarder ce matin. Anathoth était un petit village de Judée, dans le canton de Benjamin, à 5 kilomètres au nord de Jérusalem. Au livre de Josué, on nous explique dans un vieux cadastre biblique que Anathoth était une cité lévitique. Le territoire d'Israël, en effet, était parsemé d'un certain nombre de cités résidentielles pour les prêtres et pour leurs familles. Et Anathoth était même une des bourgades réservées à la plus prestigieuse des familles sacerdotales, celle des enfants d'Aaron, frère de Moïse, Aaron, le premier des grands prêtres. Oh, les prêtres de cette époque, les sacrificateurs, menaient une vie très ordinaire. Ils étaient mariés, ils avaient des enfants, ils cultivaient leurs vignes et leurs champs, élevaient leur bétail et faisaient paître leurs troupeaux. Deux ou trois fois par an, ils montaient à Jérusalem ou dans un autre sanctuaire pour assurer leur tour de service. Et pendant une semaine, ils priaient, ils chantaient, ils offraient les sacrifices, ils faisaient brûler l'encens et les parfums avant de rentrer à la maison avec la bonne conscience que donne le sentiment du devoir accompli, surtout quand ce devoir est purement rituel. C'était d'honnêtes fonctionnaires du culte. Dans leur village, ils étaient entourés du respect et de la considération qu'on accorde volontiers à ceux qui s'occupent des choses sacrées. Oui, ils menaient une vie simple et honorable. C'était finalement des petits notables de village que seul le service de Dieu distinguait de la masse du peuple. Et Jérémie appartenait à l'une de ces familles sacerdotales au village d'Anathoth. Et dans ce monde patriarcal où les fils ne peuvent que marcher sur les traces de leur père, le destin de Jérémie était tracé d'avance. Il serait prêtre comme tous ses ancêtres. Mais cette simple notation d'Anathoth, elle évoque immédiatement aussi une vieille histoire qui, elle, n'a rien de glorieux. Une histoire racontée au premier livre des rois, vous l'avez entendu. Elle met en scène un ancêtre de Jérémie, le prêtre Ébiatar. C'était un des compagnons du roi David. On nous raconte, quoi ? Qu'il avait trempé dans un complot contre le roi Salomon pour faire monter sur le trône un autre prétendant, Adonias, le frère de Salomon. Salomon, se souvenant de son père, fit grâce à Ébiatar et commua la peine de mort en relégation à Anathoth, précisément, avec interdiction absolue d'exercer les fonctions sacerdotales. Les descendants d'Ébiatar, donc Jérémie, était assigné à résidence dans ce village et interdit d'exercice. Cela durait depuis des siècles. Il n'y avait pas eu d'amnistie. La sentence du roi continuait de s'appliquer. En quelque sorte, on pourrait dire que les prêtres d'Anathoth étaient frappés d'indignité nationale, déchus de leurs droits et de leurs prérogatives. Mais allons un peu plus loin encore. Dans le récit du livre des rois, au verset 27, il y a une petite remarque assez suggestive. Il est écrit en effet que ce jugement de Salomon vint accomplir, je cite, « la parole que l'Éternel avait prononcée sur la maison d'Élie à Silo ». Cela veut dire que la sanction qui a frappé Ébiatar et qui continuait de peser sur les prêtres d'Anatote avait été bien sûr prononcée par Salomon, mais cela veut dire que pour l'auteur biblique, elle venait sanctionner une faute encore plus ancienne. Et cette faute ancienne, elle nous est racontée au premier livre de Samuel. Là aussi, je vous l'ai lu. Cela s'est passé à Silo. Silo qui, du temps de Josué et des juges, était un grand sanctuaire, desservi par le prêtre Élie. Élie était l'un des descendants d'Aaron. Et l'on nous dit que ses fils étaient des vauriens. Ils ne connaissaient pas l'Éternel. Et le récit biblique nous explique très crûment qu'ils détournaient à leur profit la viande des sacrifices et, chose encore moins glorieuse, qu'ils exerçaient un droit de cuissage sur les femmes qui venaient faire leur dévotion. Abus de biens sociaux et harcèlement sexuel. Les prêtres, ces prêtres, étaient des corrompus. Élie, leur père, aurait dû les destituer, mais c'était un homme à la conscience molle, à la volonté faible, et au lieu d'agir avec autorité, il se contenta de leur faire quelques reproches. Tout cela, bien sûr, devait très mal tourner. On nous dit que les fils d'Élie sont tombés sous les coups des Philistins. Élie est mort en apprenant la nouvelle, et sa bru a mis au monde un enfant nommé Ichabod, ce qui veut dire « privé de gloire ». Alors bien sûr, en Israël, quand on parlait des prêtres d'Anatote, on savait de quoi il en retournait. C'était des personnages peu glorieux, privés de gloire. Voilà donc la lignée de honte à laquelle Jérémie appartient. Il est l'héritier d'une histoire de déshonneur et d'infamie. À jamais, il serait attaché à cette destinée fatale, à ce lignage de crimes et de forfaitures. Or, frères et sœurs, il se trouve que Jérémie a été rejoint par la parole de Dieu. Dieu lui parle. Dieu advient dans sa vie. Et quand Dieu parle, c'est toujours un événement. Le rejeton de cet arbre apparemment mort est interpellé par le Dieu vivant et vrai. Avant que je ne te forme dans le sein maternel et avant que tu ne sortes de son sein, je te connaissais. Oh, cette affirmation, elle n'est pas destinée à nous faire pénétrer dans l'éternité de Dieu, à nous faire passer en quelque sorte de l'autre côté du voile. En fait, elle est comme un dièse sur une portée musicale. Elle donne la juste tonalité du récit qui va suivre, celui de la vocation de Jérémie. Elle nous indique que le choix de Dieu précède la naissance de cet homme. Dieu est présent à sa vie avant sa vie. Cet événement qui s'inscrit dans l'histoire d'un être humain n'a pas ses racines dans l'histoire. N'a pas ses racines dans la chair et le sang, pas plus que dans l'affect ou la raison. Tout ceci ne vient pas de l'homme, mais de Dieu. Il y a donc un originaire plus radical que la naissance. Avant que je sois ce que je suis, il y a pour moi une pensée de Dieu qui me fonde et qui m'oriente. Oui, dans son absolue liberté, Dieu appelle un homme et lui fait grâce. Le récit de l'appel de Jérémie est sans doute l'une des meilleures illustrations de ce que nous appelons la justification, de ce que nous appelons la grâce seule. Oui, devant Dieu, il n'est nulle autre qualification que celle de la grâce. Et la grâce, justement, ne regarde pas aux qualités de l'homme. Dieu reconnaît le sujet humain sans tenir compte de ses prestations, de ses appartenances, de ses loyautés, de sa position sociale. Dieu ne nous choisit pas selon nos compétences et nos appartenances. Dieu rompt avec toute idéologie de performance. Oui, nous sommes qualifiés par le libre choix de Dieu. La grâce, elle se reçoit comme un cadeau. Elle vient briser la règle du donnant-donnant. Celui qui en est le bénéficiaire peut vivre dans la confiance, sans avoir sans cesse à se justifier. Il est aimé et accueilli indépendamment de ses qualités. Oui. Oui, l'illumination première et ultime de toute vocation, c'est le témoignage intérieur du Saint-Esprit qui place le sujet dans son rapport à Dieu comme connu avant que de connaître, comme précédé par un don absolument gratuit. Et voilà ce qui s'est passé pour Jérémie au jour de sa vocation. Ce coup de grâce, il revêt deux aspects. Il est libération et il est vocation. Libération parce que l'événement de la parole vient rompre une chaîne. Ne l'oublions pas, Jérémie est l'ultime rejeton d'une lignée de vauriens et de maudits. Eh bien, Dieu nous dit qu'il n'y a pas de fatalité, qu'il n'y a pas de destin, qu'il n'y a pas de nécessité ni d'enfermement. Dieu nous donne l'assurance que nous ne sommes pas prisonniers de nos héritages, de nos ascendances, de nos déterminismes. La psychologie nous enseigne que, sans le savoir, souvent, nous subissons le contre-coup de traumatismes qui ont frappé nos ancêtres. Beaucoup de personnes sont tributaires d'héritages familiaux, de pesanteurs ancestrales, de lourds secrets de famille dont parfois ils ignorent tout. Oui, porteurs de nos passés occultés, de nos bouts de mémoire manquants, porteurs d'événements enfouis, nous avançons dans la vie, chargés de fardeaux, à l'image de ce Jérémie, issu de la lignée d'Élie et d'Ébiatar. Mais avec l'irruption de Dieu, il est proclamé qu'aucune malédiction n'est irrémédiable. Dieu donne l'assurance à Jérémie qu'il n'est plus asservi à l'antique esclavage et à la force du destin. Jérémie n'est plus le prêtre d'Anatote, c'est un enfant de la grâce et de la liberté. Jérémie est libre, car si ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Quand Dieu passe dans une vie, c'est en soufflant un grand vent de joie, d'audace et de liberté. Et le signe que Dieu agit, c'est qu'il tourne l'homme d'Anatote vers l'avenir, en lui confiant une mission. « Je fais de toi un prophète pour les nations. » Jérémie reçoit vocation. Alors qu'il subissait son destin, qu'il était au passif, il va devenir l'acteur d'une histoire. Il sera prophète de la parole. Et cette mise à part, ce n'est pas à l'entrée dans un monde enchanté qui placerait cet homme dans une situation exceptionnel, de privilégié de Dieu, supérieur au tout venant. Non, c'est une délimitation. Être appelé, c'est finalement accepter de se limiter, de renoncer au fantasme de la toute-puissance. C'est accepter d'être envoyé dans le monde, c'est accepter de s'engager dans un service, dans une tâche, avec ses exigences, ses lourdeurs. C'est renoncer, pour Jérémie, à la stabilité du prêtre ou au prestige du sage. Car je crois qu'il faut bien en prendre la mesure. La réponse de Jérémie à l'appel de Dieu suscite dans sa vie une rupture instauratrice. Jérémie était prêtre, il devient prophète. Et dans son existence, il y a quelque chose de tranché, net, comme une coupure. Un monde ancien s'en est allé. Oui, la rupture, elle fait éclater un monde, un discours, celui de la religion, celui du, du confort spirituel. Et on comprend qu'il y ait chez Jérémie une critique acérée du temple, du rituel, des sacrifices. De par la tradition familiale, cet homme savait tout ce qu'il peut y avoir d'illusion et de grâce à bon marché dans l'économie religieuse du sacerdoce. Et les crimes des fils d'Élie, ceux du prêtre Abiathar, étaient là pour lui rappeler que les institutions de salut ne valent jamais que par les hommes qui les font vivre. Oui, ce que Jérémie dénoncera à temps et à contre-temps, c'est la sécurité illusoire qu'apporte le rite quand il est bien accompli, la formule que l'on prononce au bon moment, le sacrifice offert afin de mieux manipuler le divin. Et ce qu'il dénoncera aussi, c'est l'hypocrisie de tous ceux qui, en faisant le mal ou en commettant l'injustice, offrent à Dieu sans sourciller ce qu'ils pensent être le culte véritable et propice. On comprend aussi que Jérémie ait suscité l'hostilité de ses contemporains et que son ministère ait fait de lui un serviteur souffrant et un prophète persécuté. J'ajouterai encore que gracié, appelé, envoyé, Jérémie fait aussi figure d'un homme entre deux rives. Appelé à la liberté, c'est vrai, mais Jérémie sait d'où il est issu. Il ne saurait oublier d'où il vient. Il a quitté le monde de la religion close pour s'engager sur les chemins de Dieu. Il voit où l'Éternel veut le conduire. Au lieu du désert et des lieux arides, Dieu lui montre les chemins de la paix et ses sources jaillissantes. Jérémie est en route, il est dans un entre-deux. C'est ce qui rend cet homme pathétique et attachant. Il fait en sa chair, en son cœur, l'expérience de la pesanteur et de la grâce, de la servitude et de la liberté, de l'angoisse et de la joie. Jérémie est à la fois l'homme de la blessure et l'homme de la guérison. C'est un marcheur blessé, car la grâce, si elle fait irruption dans nos vies, elle n'abolit pourtant pas la finitude. C'est dans sa vulnérabilité et sa fragilité d'enfant humilié, dans la claire conscience de ne pouvoir tout maîtriser, que Jérémie répond à l'appel de son Seigneur. Tel notre père Jacob, il fait route, la hanche brisée, avec la parole de Dieu comme seul soutien. Mais, voyez-vous, frères et sœurs, pour lui, comme pour nous, c'est dans la marche chaotique de l'existence que peut jaillir le sens. Oui, il peut jaillir, non pas comme une certitude, mais comme un éclat, celui que l'Éternel fait briller lorsqu'il vient à nous et qu'il nous dit « N'aie pas peur, je suis avec toi ». Oui, le Dieu de Jérémie, notre Dieu, n'est rien d'autre que cela. Ce marcheur sur nos routes qui vient renverser tous les murs de nos enfermements et qui vient nous ouvrir l'espace de la confiance. Amen.